Alors, nous sommes samedi après-midi, nous sommes toujours aux Utopiales avec Sébastien. Et bonjour. Nous allons discuter avec Guylaine Lemignot.
Bonjour.
Bonjour Guylaine. Alors, tu écris pas mal pour du jeu de rôle. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé?
Alors, j'ai commencé par écrire tout d'abord des scénarios pour la gamme 6 des 12 singes, sur 6 étoiles en guerre et 6 voyages en Extrême-Orient. Là, actuellement, je travaille toujours pour les 12 singes sur la gamme Nécropolis, sur un futur supplément, et également pour la gamme Mandblade du département des sombres projets.
Et alors, qu'est-ce que tu écris pour eux?
Alors, principalement du background et des scénarios. Vraiment, pour l'instant, c'est la base de mon travail en termes d'auteur. J'écris aussi des articles, un article, dans la catégorie Inspiration pour Jeux de Rôle Magazine, pour normalement, si tout va bien, la prochaine sortie, je l'espère. Donc voilà, pour l'instant, c'est vraiment principalement du background pour les deux gammes, Nécropolis et Mandblade, du scénario. J'espère que ça paraîtra normalement en 2016.
Formidable. Bah, écoute, le scénario... C'est un exercice sur lequel travaille beaucoup Sébastien, donc je pense qu'il aura tout à l'heure des questions à te poser et que tes réponses l'intéresseront.
Je me prépare.
Ok, je sais qu'on partage un privilège extraordinaire qui est d'être arrivé en finale du Game Chef cette année.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous parler brièvement du jeu que tu as fait pour le Game Chef? Parce que je crois que pour l'instant, c'est le seul jeu que tu aies créé.
Enfin, oui, en tout cas, c'est le seul jeu de A à Z qui est le mien. Oui. Pour l'instant, c'était même la première fois que j'écrivais un jeu entier, fini, une version présentable et finie, on va dire. Donc ce jeu s'appelle Un dernier verre. Il était donc dans les finalistes de la Game Chef au même titre que ta production. Et donc c'est toujours un jeu sur une base un peu de narration partagée, où il n'y a pas de MJ. Et où les joueurs incarnent des personnes qui se retrouvent dans un bar pour discuter un peu de leur passé incroyable qui a été flamboyant et qui aujourd'hui s'est éteint sinistrement.
En buvant de l'alcool.
En buvant de l'alcool, évidemment. Donc c'est vraiment un jeu qui est à la limite du freeform au final, qui part un petit peu dans des délires sympathiques de ratés qui se retrouvent autour d'un verre avec des termes... un peu chartier pour se parler les uns les autres et se raconter à quel point c'est leur vie à eux qui était bien la pire et la plus terrible.
Et dis-moi, l'expérience du Game Chef par rapport à ton expérience d'écriture pour les éditeurs, est-ce que c'est quelque chose de très différent?
Oh oui, c'est très très différent. Disons que l'écriture pour éditeur, on est dans de l'exercice de style, dans un travail bien particulier que j'aime beaucoup. C'est un exercice qui me plaît mais qui est très différent de la conception du jeu. Où là vraiment on pense les mécaniques de A à Z. Concrètement, quand j'écris des scénarios et du background, je ne me pose pas un seul instant la question des mécaniques. Elles viennent après quand je pense au scénario, etc. Mais là, pour la Game Chef, c'était vraiment le cœur du problème. C'était comment organiser les mécaniques avec un propos, puisque ce n'est pas un jeu à background lourd, etc. C'est un jeu qui vraiment a une prise en main très très rapide. Donc c'est vraiment comment mettre les mécaniques au service du propos, qui est une question que je ne me pose pas quand j'écris des scénarios ou du background.
Alors, juste pour rappeler aux auditeurs qui n'auraient pas entendu les émissions des Voix d'Altaride ou de Radio Rôliste dans lesquelles on a parlé du ou de la Game Chef, je ne sais pas du coup ce qu'on dit, du concours Game Chef peut-être, peu importe.
On a le droit de le féminiser.
Oui, moi ça ne me choque absolument pas. Nous avons une proposition de concours dans laquelle en 9 jours, on doit créer un jeu à partir d'un thème et de 4 ingrédients qui doivent être... deux au moins doivent être utilisés au moins de manière... Bon, c'est assez souple, mais en théorie, 2 ingrédients sur les 4 doivent être utilisés. Voilà. En 9 jours, et les participants reçoivent des retours d'autres participants qui ont lu leur jeu, et si on passe en finale, on a un retour du jury. Est-ce que les retours de la Game Chef ont été utiles pour toi?
Tout à fait. Les retours du jury ont été utiles. Les retours des joueurs, enfin des autres participants du premier tour au final ont été, je pense, les plus précieux pour moi. Il y a eu vraiment des très bonnes remarques, des très bons points. Et là, je dois admettre avec honte que je n'ai pas encore testé mon propre jeu. Donc dès que je l'aurai testé, je me mettrai à retravailler sur une deuxième version. Pour voir ce que j'élague, ce que je rajoute, etc. J'ai aussi eu des retours d'amis qui l'avaient déjà testé. Donc voilà, ça, je vais vraiment essayer de tenir compte de ça. Les retours des participants avaient vraiment été précieux et très enrichissants
de ce côté-là. Oui, tout à fait, je suis absolument d'accord avec toi sur ce point de vue-là. C'est la même expérience de mon côté. Oui.
C'est presque ça, la clé de la Game Chef, au final.
Mais alors, attends. t'as pas testé ton jeu, mais tes scénarios et le contenu que tu produis pour les éditeurs, c'est quelque chose que tu peux tester ou c'est quelque chose que tu ne peux pas tester ?
Ah non, si, les scénarios que j'écris, je peux les tester.
Ouais.
Ça, c'est pas un souci. Faut trouver le temps, faut trouver les gens.
Les éditeurs, parce que qui dit éditeur, on en reparlera peut-être parce que je pense que Sébastien a des questions un peu plus précises sur le sujet, mais tu as toujours l'idée d'une deadline, d'un délai assez précis pour eux. Est-ce que ça te laisse l'occasion de les tester ou...
Oui.
Oui, quand même.
Honnêtement, avec les délais que j'ai là, je suis vraiment pas à plaindre.
D'accord, parce que souvent, quand on parle de ce genre de choses dans le milieu des podcasts rôlistes en général ou dans le milieu rôliste en général, on a l'impression que la pression au terme de temps sur les produits des éditeurs, sauf quelques rares cas, impose de publier sans avoir suffisamment testé.
Alors, sans avoir suffisamment testé, oui, ça, je suis d'accord. Y a des fois où on se dit que quand même ça mériterait plusieurs tests, comparés, etc. Après, moi en l'occurrence, pour l'instant, des expériences que j'ai, le temps je l'ai.
D'accord.
Je pense que ce sera sans doute pas toujours le cas. C'est vraiment lié à, là en l'occurrence, les conditions de travail que j'ai, où j'ai vraiment pas des délais catastrophiques.
Ouais, ouais, ouais.
Donc en l'occurrence, là, oui, ce temps je l'ai. Et c'est
et
très
alors,
bien.
Comment tu testes un scénario que tu vas publier ensuite ?
Alors déjà, je le teste avant de l'écrire. En fait, je teste une idée de base.
D'accord.
Je teste une idée qui n'est pas encore bien orientée.
Oui.
Et de là, après, vraiment, j'écris précisément le scénario et je le reteste en forme comme il est écrit. Honnêtement, très généralement, j'ai le temps de le tester qu'une fois.
D'accord. Écoute, c'est déjà pas mal. Sébastien.
Ben, je vais avoir plein de questions. La première, qu'on a parfaitement le droit de botter en touche. Parce qu'on la pose à tous les auteurs, avec un E à la fin. Est-ce que tu as l'impression que le milieu évolue depuis sa bonne vieille ambiance de vestiaire de foot ?
Oh oui. Oui, oui. Moi, je sens une évolution après. Faut voir aussi que ça fait pas très longtemps que j'écris dans le milieu du jeu de rôle. Ça fait grosso modo 2 ans, 3 ans. Que je commence vraiment à produire, donc je pense que déjà à ce moment-là, on avait déjà eu une évolution. Donc clairement, moi je ne ressens pas ce côté un peu, comment dire, bourrin, pas très subtil et délicat autour de ce type de questions.
Et simplement la bonne vieille misogynie des familles.
Comment ?
Et la bonne vieille misogynie des familles.
Voilà, moi actuellement je ressens pas du tout de misogynie dans le milieu, au moins dans le milieu pro, semi-pro, etc. Je trouve que c'est plutôt des gens qui se posent ce genre de questions et qui se positionnent d'une bonne façon dans ce genre de questions, du moins dans les gens que je côtoie.
Très bien.
Voilà.
Est-ce que c'est parce que tu as eu le choix de bosser avec des gens qui avaient cette attitude-là ou tu as simplement eu la chance de constater que c'était pas un problème ?
J'ai eu la chance de constater que c'était pas un problème. Je pense aussi qu'à un moment, il y a l'instinct qui te dit, quand tu discutes avec quelqu'un que tu connais pas trop et que tu sens qu'il commence à te faire des remarques un petit peu pas très agréables, bah, juste tu le zappes, tu vas plus lui parler et donc au final, il ne rentre pas dans ta sphère et dans le milieu que tu côtoies.
Ça roule. Est-ce que tu penses qu'il est encore utile d'avoir une attitude militante de ce point de vue ?
Oui, complètement.
Est-ce que tu peux développer ?
Notamment autour des questions d'illustration dans le jeu de rôle qui ne cessent de me faire sauter au plafond.
Illustration seulement ou la représentation des femmes en général ?
Alors les deux, mais principalement les illustrations. Moi c'est vraiment l'élément qui me choque, mais je parle jeu de rôle, mais c'est aussi valable dans le jeu vidéo, dans la BD. Voilà, c'est... J'ai de plus en plus de mal à trouver une BD qui me convient, parce que bah, systématiquement, les tenues en latex moulant ou les tétons sont moulés, je suis désolée, mais non. Voilà. Et c'est valable en jeu de rôle également, mais dans la représentation des personnages féminins, je trouve qu'on commence déjà à évoluer un peu. Il faut aller vers du mieux. Moi-même, quand j'écris, c'est quelque chose auquel je fais attention. J'écris toujours un premier brouillon, comme ça sort, un premier jet, d'un scénario par exemple. Voilà, je crée mes PNJ, etc. Et une fois que j'ai écrit tout ça, je reprends et je compte combien j'ai mis d'hommes, combien j'ai mis de femmes. Systématiquement, il y a plus d'hommes que de femmes.
Je me demandais si c'était un problème qu'on avait nous les mecs.
Ah non, je pense que c'est tout le monde. Je pense que c'est notre environnement de toute façon qui vient. On est des éponges. L'environnement s'imprègne en nous, voilà quoi.
On n'est pas sortis du bois. Hein.
Non, mais du coup, c'est en ayant, ce genre de démarche qu'on en sortira. Et donc, je reprends systématiquement tout et je m'applique à équilibrer la balance.
Est-ce que tu te poses la question de la hiérarchie aussi ? Parce que, par exemple, comme toi, je compte mes personnages féminins et masculins, mais en plus, je prends le temps de vérifier que je n'ai pas mis que des mecs en position de pouvoir.
Oui, 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 oui. ça rentre dans la ligne de jeu. Et je fais également attention, quand j'écris un personnage féminin, à ce qu'il ne soit pas défini par sa condition féminine, par sa condition de femme, etc. etc. Voilà, ça j'y fais vraiment très attention.
Parmi les questions traditionnelles que j'ai posées à tout le monde, la première, c'est l'avenir du jeu de rôle. Comment est-ce que toi, tu le vois? Est-ce que tu as une analyse prospective, par exemple? Est-ce que tu as des ambitions ou plus généralement des espoirs, des intentions, des choses que tu aimerais voir se produire dans le milieu?
J'aimerais voir une ouverture d'esprit qui arrive. Elle arrive.
À quel sujet particulièrement?
Au sujet de la conception de ce qu'est le jeu de rôle, de ce qu'est un jeu, etc. Mais aussi une ouverture d'esprit sur ce que peut être une maison d'édition, sur ce que peut être une... le format d'un livre de jeu, etc. Voilà, j'ai l'impression qu'on a un peu des horizons qui s'élargissent. Je le vois et j'aimerais que ça continue et que ça arrive de plus en plus. Qu'on ait plus de possibilités en termes de création. Parce que voilà, aujourd'hui, concrètement, t'arrives avec ton projet, c'est compliqué de le voir publié sans qu'il rentre dans une case déjà préétablie, à moins de toi-même prendre le risque en auto-édition, etc.
Alors, justement, est-ce que tu as des projets de ce genre et des intentions en termes d'auto-édition, éventuellement?
Pour l'instant, non. Pour l'instant, j'ai pas de projet à moi, si ce n'est retravailler mon jeu de la Game Chef, mais ce serait certainement pas pour l'éditer et le monétiser.
Peut-être pour le rendre disponible, tout simplement.
Voilà, c'est ça. Ce serait plus pour le rendre disponible, mais voilà, enfin, c'est tout. Après, je garde un peu sous le coude ces questions-là, en me disant le jour où j'aurai l'idée du jeu, où je me dirai « Ah, celui-là, j'ai vraiment envie de le poupouiller et d'en faire un joli jeu bien propre que j'imprimerai, etc. » Je verrai ce qui convient, parce que je pense qu'en fait, chaque jeu a des besoins propres en termes d'édition, en termes de public, en termes de moyens financiers.
Ben justement, ça va nous amener à ma deuxième question, qui est en termes de modèles éditoriaux. Est-ce qu'il y a, parmi ce qui se développe actuellement, qui s'est développé depuis 10 ans, pour être complètement exact, parce que le PDF, ça commence à dater un petit peu... L'extrême facilité avec laquelle on peut maintenant diffuser un jeu, plus exactement publier. Je fais la distinction avec la notion d'édition et donc le travail éditorial, le retravail du texte, etc. On y reviendra beaucoup, mais c'est une distinction que je trouve importante et qui est un peu mon cheval de bataille dernièrement. Mais en l'occurrence, est-ce que tu considères que les outils de publication à disposition aujourd'hui, les modèles de publication, proposent des choses qui, toi, t'intéressent?
Il y a des choses qui m'intéressent, mais encore une fois, tout dépend du jeu. Il n'y a pas un modèle où je me dis « Ah oui, si un jour je publie, je veux que ce soit dans ce modèle-là. » Non, ça dépendra du jeu. Un jeu appelle un modèle.
Ok, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret d'un couple jeu, intention ludique, intention narrative, etc., et modèle de publication qui te paraîtrait cohérent, viable, intéressant?
Voyons voir... Oh là, tu me poses une petite colle tout de suite. Mon cerveau a du mal.
Ça ne nécessite pas une réponse.
Typiquement, je pense par exemple au format d'édition du jeu Vasberg.
Ok.
Il a un format d'édition un peu original. C'est pas un gros bouquin avec une couverture et 300 pages. C'est quand même un format avec une sorte de couverture détachable qui est en fait une carte de la ville à l'intérieur de laquelle il y a trois livrets. Vasberg, c'est pas un jeu très lourd. C'est pas un jeu avec un background de 500 pages, avec des mécaniques ultra compliquées et très très précises pour chaque action. Pour moi, ça reste un jeu léger.
Qui avait quand même l'avantage de faire suite à un roman.
Tout à fait.
Qui contenait une grande partie du contexte.
Oui, mais je pense que le contexte du livre n'est pas nécessaire pour apprécier d'y jouer et pour bien jouer à Vasberg, faire des bonnes parties, etc. Parce que déjà, il y a un résumé dans le jeu de base. Il y a un livret de contexte.
Je crois, mais je me rends pas compte parce que j'ai lu le roman avant de toucher au jeu.
Certes. Mais moi, j'y ai joué la première fois sans avoir lu le livre. Et j'ai lu le livre
justement.
Après.
Justement.
En fait, j'ai joué au jeu, je me suis dit, mais dis donc, c'est super. Et on m'a prêté le livre et j'ai lu le livre. Et voilà, c'est dans cet ordre-là que les choses se sont faites. Et typiquement, je trouve que le format de ce jeu est intéressant en termes d'édition. Parce qu'on sort du carcan de la couverture dure, avec les illustrations couleurs, etc. Et je trouve que ça vient un peu servir son propos quand même. D'un truc à peu facile, rapide à prendre en main, etc. Voilà, ça c'est un format d'édition que je trouve intéressant.
Merci.
Dernier point que je voulais évoquer avec toi, c'est le point podcast. puisque tu te lances dans cette aventure-là, toi aussi.
Et, tout à fait, oui. Je viens rejoindre la famille des podcasteurs jeux de rôle à partir du 10 novembre, je crois que c'est prévu. Dans le prochain podcast de Proxy Jeux, apparaîtra une chronique sur le jeu de rôle animée par Pascal Viette, qui est à l'initiative de cette chronique, ainsi que moi-même et Aurélien Lefrançois, nous serons trois autour de cette chronique qui s'appellera au coin de la table, et donc où nous parlerons de jeux de rôle. Donc c'est l'idée de Pascal à la base, c'est lui qui est vraiment à l'initiative de ça, et il voulait créer une chronique qui puisse aborder la question des mécaniques de jeu en jeu de rôle, comment elles viennent influencer. Oui, je sais, vous avez aussi quelque chose comme ça.
C'est très très bien, non, c'est très très bien.
Non, c'est important que les gens le fassent, pas que nous, je veux dire.
Et donc, en fait, là, on aimerait vraiment apporter aussi un angle par rapport aux jeux de société.
D'accord.
Puisque Aurélien Lefrançois, lui, à la base, est plus orienté jeux de société. C'est plus sa sphère et sa zone de confort. Elle est plus avec des pions et des jetons qu'avec des fiches de perso. Donc voilà, on aimerait bien parler des mécaniques communes ou au contraire pas communes, etc. Jeux de rôle, jeux de société, et parler un peu de ces choses-là. Ce qu'on peut en retirer en tant que joueur, en tant que MJ, en tant qu'amateur, en tant que professionnel, peu importe, voilà.
Ok, et c'est une rubrique régulière sur la mécanique ou vous allez aborder d'autres thèmes aussi ?
C'est une rubrique qui sera pour l'instant orientée uniquement sur la mécanique. C'est un format de 15 minutes, donc c'est très court.
Oui, c'est... Ouais.
C'est très très court. Pour vous qui êtes habitués à des podcasts de 2 heures, ça doit vous faire bizarre.
Non, parce que la rubrique mécanique que nous animons avec Sébastien sur Radio Rollist, du coup... qui est toute neuve, est censée, on n'est pas en durée 20 minutes ou 15 minutes, je
et
crois.
Et on explose le timing à chaque fois.
D'accord. Voilà. Bah nous, en fait, on ne peut pas exploser le timing vu qu'on est au sein du podcast Proxy Jeux Général. Ouais. Ils nous y font une petite place très, très gentiment. Et du coup, on doit tenir cette règle des 15 minutes
vous
pour l'instant.
Vous l'enregistrez à part ?
Oui.
D'accord. Ce qui vous permet effectivement de vous couper comme il faut.
Voilà. On l'enregistre de notre côté et après, c'est intégré dans le podcast Général. Ça, c'est le format pour l'instant,
ouais.
pour les premiers tests, on va dire. Après, qu'est-ce que ça deviendra, je ne sais pas. Nous verrons selon comment ça se passe de notre côté, la réception qu'il y en a, etc.
Eh bien, bienvenue.
Eh bien, merci. J'espère ne décevoir personne.
Écoute,
être à la hauteur.
Plus on aura de monde qui parle de ces questions-là, plus ce sera intéressant. Il y a de la place pour absolument tous les podcasts et il y a de la place pour qu'il y ait des nouveaux podcasts qui se créent. Donc vraiment, allez-y, faites découvrir le jeu de rôle au monde du jeu de plateau, attirez les joueurs de jeu de rôle vers le plateau par ce biais-là aussi. Ce sera formidable.
Espérons-le.
Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a attiré dans l'idée de faire du podcast ?
En fait, moi, ça m'est un peu tombé dessus un matin. Concrètement, un matin, on m'a dit « Dis donc, je connais quelqu'un qui veut faire un podcast sur le jeu de rôle. Est-ce que ça te dirait ?» Moi, à la base, j'aime bien parler. Voilà. J'aime bien causer.
Ça
j'aime
arrive
bien...
au rôliste.
Voilà, c'est un truc de rôliste. Réunir des gens pour parler de jeux autour d'une table, moi, ça me semblait être une bonne idée. Et puis bon, à force d'écouter des podcasts aussi, c'est... Il y avait tout un tas de fois où je me disais « Ah, mais non, mais c'est pas possible, on peut pas dire ça !» Et je me disais qu'au final, peut-être que j'aurais peut-être des choses pas si inintéressantes que ça à dire.
Absolument.
Et qu'au final, ça valait le coup peut-être d'essayer de faire quelque chose à trois, et puis d'apporter cet angle un peu jeu de société avec Aurélien, ça peut aussi être quelque chose de très intéressant.
10 novembre ?
A priori. C'est la date qui m'a été donnée.
Aux alentours du 10 novembre ?
Voilà.
Ah bah écoute, on va t'écouter avec plaisir.
Sur le site Proxy Jeux, sur le podcast principal du site.
Eh ben, au plaisir de t'écouter, de te lire et de te voir terminer, voire entamer de nouveaux projets de jeu. Et merci beaucoup pour cet entretien.
Eh ben, merci à vous. Au plaisir de vous écouter très bientôt sur Radio Rollist.